Chapitre 3e. S'il s'agissait d'un roman fabriqué pour le plaisir du lecteur, je n'aurais pas manqué de représenter mon héros chevauchant au pas sous les ombrages, la tête baissée, le cœur troublé d'un sentiment nouveau, rapportant dans ses yeux une image devenue tout à coup l'idole de sa vie, décidé d'avance à ne pas honorer d'un regard la très séduisante Miss Kingsley. Mais comme il s'agit d'une histoire dont le seul mérite est la vérité sans ornement, il me faut avouer que Bertrand n'avait guère en tête que cette idée. Comment va-t-on me recevoir tout à l'heure? Que dirai-je pour éviter les reproches de ma mère? La marquise, en effet, ne considérait pas que l'âge de son fils, alors dans sa 28e année, fut un motif pour abdiquer l'autorité de régente qu'elle exerçait depuis longtemps. Plusieurs causes contribuaient à maintenir ce pouvoir à peu près dans toute sa force. Le caractère du jeune homme d'abord, ennemi de la discussion et de la lutte, puis l'indomptable et froide énergie de la douairière. Enfin, cette circonstance particulièrement grave, que toute la fortune de la famille était dans ses mains et que son fils ne disposait pas d'un louis en propre. Aussi le cavalier, tout en filant comme une flèche à travers l'ombre endormie des grands bois, songeait moins qu'on ne le suppose à la beauté brune qu'il quittait ou à la beauté blonde qu'il allait voir et dont il s'agissait de faire la conquête. Il cherchait prosaïquement une excuse assez bien imaginée pour le sauver d'une scène et, pour être juste, les scènes de la marquise méritaient qu'on se donnât de la peine pour les éviter. Quand il eut trouvé l'excuse, ou plutôt l'adaptation de vérité dont il comptait se servir, et qui lui servit en effet comme on l'a vu, ce grand écolier de 28 ans se sentit plus à l'aise. Alors il se demanda comment l'aventure allait finir. Je parle de l'aventure américaine. Et s'il allait devenir amoureux de Miss Kingsley, car de l'épouser pour sa seule fortune, il n'admettait pas qu'il pût en être question pour lui. Mais ce brave garçon ne se doutait pas d'une chose, c'est qu'il ressemblait en ce moment à un amateur de peinture qui serait allé faire un tour au musée du Louvre avant d'entrer dans une exposition de tableaux de l'école actuelle. En quittant Suzanne de Frézolles, Bertrand n'était pas amoureux de celle-ci, mais il était, bien à son insu, dans les plus mauvaises conditions pour devenir amoureux de l'autre. Et de fait, il s'étonna lui-même, quand il se trouva seul dans son appartement, la soirée terminée, de n'avoir pas senti l'ombre d'un tressaillement, l'apparence d'un rêve en présence de cette jeune fille très belle, merveilleusement habillée, qui s'était révélée pendant des heures dans l'éblouissement de ses yeux, de ses dents, de son sourire, de l'or de ses cheveux, du feu d'artifice de ses gestes. Cette magnificence exotique l'avait intéressé, mais sans le retenir. Il l'avait contemplé comme on admire un pays curieux à traverser, différent des sites connus, mais où l'on ne désire point vivre et mourir. Le sommeil, en venant fermer ses yeux, le trouva plongé dans le monologue mental que voici. Comment vais-je faire demain? Dans la matinée, je monte à cheval avec Miss Kingsley. Ensuite, on déjeune. Dans l'après-midi, je la promène en voiture avec sa tante. Puis nous avons à dîner quelques voisins. Pas de célibataire, bien entendu. Et pourtant, il faut que je trouve le moyen d'aller aux Brettes. Même, je veux y porter un bouquet, sans que ma mère le sache. Naturellement. Et le jardinier ne cueille pas une fleur qu'elle ne l'ait ordonnée. Fort heureusement, Mrs. Saldwell et sa nièce pratiquaient l'habitude salutaire de la sieste l'après-midi. Vers 1h30, sous un soleil de feu, Bertrand put s'éclipser à cheval par la barrière des communs, portant une gerbe de roses digne d'une reine. Il gagna les bois à travers champs, pour ne point passer sous les canons de sa mère qui n'avait jamais connu dans toute sa vie une heure de sieste, et dont les yeux et les oreilles semblaient avoir gagné tout ce qu'avaient perdu ses jambes. Au même instant, mesdames de Frézolles causaient ensemble dans ce qu'elles appelaient leur salon, tout en raccommodant leurs nappes. « Je voudrais bien savoir, disait l'infirme en cessant de coudre, s'il est le fils d'un de mes danseurs d'autrefois que nous appelions le ténébreux Fonlus, à cause de sa physionomie constamment préoccupée et malheureuse. On le disait pauvre, ce qui n'aide point, hélas, à porter du matin au soir la gaieté sur son visage. Mais si c'est le Fonlus dont je parle, il en a rappelé depuis, au moins, quant à la pauvreté, en épousant une fille de banquier ou quelque chose comme cela, qui a redoré l'écusson. Elle était fort belle, paraît-il, et chantait à ravir, ce qui ne l'empêcha point de rendre son mari aussi malheureux qu'un homme peut l'être, par sa jalousie et ses façons d'autocrate. On prétend qu'elle ne lui donnait jamais plus d'un louis à la fois pour ses plaisirs. Encore ne fallait-il pas qu'il eût démérité en levant les yeux sur une autre femme ou en tenant tête à la sienne. Tu vois que l'argent ne suffit pas pour procurer le bonheur en ce monde. Non, ma chère maman. Il ne suffit pas, dit Suzanne avec un soupir qu'elle corrigea presque aussitôt en souriant à sa mère. Madame de Frézolles continua, tout heureuse d'avoir un sujet de conversation nouveau. Je n'ai jamais connu la terrible marquise. En même temps qu'elle, je me suis mariée, pas pour l'argent, et la vie de garnison a fait de moi une provinciale jusqu'au jour où j'ai regagné Paris, seule avec toi, mon enfant bien-aimé, et nous voici plus provinciales que jamais. Oh, quant à cela, maman, c'est un bonheur, et le médecin qui vous a conseillé l'air des champs mérite de passer pour un grand homme. Vous allez mieux et je suis la personne la plus heureuse du monde. Veux-tu bien te taire? Il ne faut jamais dire, même tout bas, qu'on est heureux et qu'on se porte bien. Le malheur a les oreilles si fines. Dépêche-toi de trouver quelque grosse infortune à déplorer. Des infortunes? Mais j'en suis accablé. D'abord, nous voilà sans voiture, et par conséquent sans promenade. Ensuite, Claudine est en guerre ouverte avec moi. Savez-vous ce qu'elle voulait faire, l'horrible femme? Emprunter un fusil, et sous prétexte qu'elle est la veuve d'un gendarme, se mettre en faction la nuit et tirer les lapins qui s'invitent à souper chez nous. Les amours! De ma chambre, au clair de lune, je les vois se promener, s'asseoir, se frotter le museau, gratter leurs oreilles qui font par terre des ombres d'une lieue. Le spectacle vaut bien quelques carottes. Mais Claudine pense autrement. Elle déclare qu'elle ne touchera plus une bêche, à moins qu'on lui permette de protéger sa culture à coups de fusil. Et vous la connaissez, Claudine. Sous le rapport de la tyrannie, elle rendra des points à l'altière marquise dont vous parliez tout à l'heure. Comme Suzanne achevait ces mots, le bruit d'un fer de cheval heurtant une pierre sur le chemin, rarement fréquenté, vint aux oreilles des deux femmes. « Maman, c'est lui !» dit Mademoiselle de Frézolles, se servant de la fente du volet en guise de Judas. « Mon Dieu, que son cheval a chaud! Il est blanc d'écume !»« Bon, voilà Claudine qui lui tient la selle pendant qu'il descend. Il rit. Les voilà qui causent. »« Bravo, madame !» disait Bertrand à son groom en juponné. « Vous n'en êtes pas à vos débuts, ou je me trompe fort. Si nous étions au pays des Amazones, je dirais que vous étiez brigadière dans le régiment de Talestris. »« Non, monsieur, » répondit Claudine avec une mâle simplicité. « C'est Plantagenet, mon défunt, qui était brigadier à Brie. Ces dames sont là, première porte à gauche, dans le couloir. Monsieur n'a pas besoin de s'inquiéter de son cheval. Je vais le promener au soleil pour le sécher. Pauvre bête. Si jamais Plantagenet m'avait ramené le sien dans un état pareil. » Déjà, elle avait relevé les étriers du lion, et munie d'une branche de saule en guise de chasse-mouche, elle commençait la promenade hygiénique dont le cheval, pour être juste, avait besoin, car l'eau ruisselait de son flanc jusqu'à terre. Suzanne, voyant que Fonlus hésitait, vint à son secours en s'avançant sur le seuil. Elle dit, peut-être un peu plus gaiement qu'elle n'en avait envie, « Je m'aperçois qu'on s'occupe du cavalier beaucoup moins que de sa monture. »« Mais, mademoiselle, c'est la règle. D'ailleurs, le cavalier n'a pas à se plaindre puisque vous vous dérangez pour lui. »« À petite maison, petit dérangement. Ma mère va vous gronder, monsieur, d'avoir choisi l'heure la plus chaude pour venir la voir. »« Le diable m'emporte, si c'est moi qui l'ai choisi, » pensa le jeune homme en suivant Suzanne. « Avec deux Américaines chez soi, l'on ne fait pas ce qu'on veut, ni quand on veut. » Madame de Frézolles était assise dans une pièce assez grande, transformée en salon grâce à quelques tapis fortement usés qui couvraient les dalles de pierre, et à des meubles fatigués, d'une élégance flétrie, qui juraient péniblement avec les murailles peintes à l'huile par un entrepreneur campagnard. Par une des deux fenêtres, tournée au nord, le jour venait à travers des rideaux de mousseline éblouissante. Sur la table, une pile de linge plié, un album de photographies, 4 ou 5 volumes à l'air sérieux, des portraits de famille autour de la pièce, toiles sacrées qu'on ne vend jamais, quand même elles sont de maître connu, ce qui était le cas. Enfin, sur l'étroite cheminée de pierre polie, une de ces affreuses garnitures dont les chambres d'amis se contentent bon gré mal gré dans les maisons de campagne modestes. Bertrand de Fonlus eut le cœur serré, en ne trouvant rien qui sentît la jeunesse et le sourire, dans cette chambre où une belle fille de 20 ans passait sa vie. C'était au point qu'il fut impossible de découvrir un vase pour y déposer les roses que le marquis venait d'offrir à Madame de Frézolles. De toute évidence, les bouquets n'abondaient pas au logis. « Voilà, dit la vieille femme, des années que je n'ai touché des fleurs pareilles. Vous nous gâtez beaucoup, monsieur. » « J'accomplis un acte de vulgaire justice, répondit Bertrand. J'en ai appris de belles sur le compte de mes chevreuils et de mes lapins. Je sais qu'ils traitent votre jardin en pays conquis, tout cela sans que vous adressiez l'ombre d'une plainte à mes gardes. Vos prédécesseurs n'y mettaient pas tant de délicatesse. Ils m'inondaient de papier timbré. Mais patience, dans 2 jours, quand je serai débarrassé d'une petite affaire qui m'occupe en ce moment, je saurai remplir mes devoirs de propriétaire. En attendant, j'ai une restitution plus directe à opérer. » Il tira de sa poche le fameux écrou et le posa sur la table. « Figurez-vous que je l'ai trouvé hier en vous quittant sans le chercher. C'est toujours comme cela. Mais à propos, j'ai retrouvé aussi mon cheval, dont vous aviez la bonté d'être inquiète. Rien ne se perd dans mes bois, comme vous voyez, et j'espère qu'on vous y verra de plus en plus. » Il parlait sans s'arrêter, comme un prisonnier sorti du secret le matin qui veut réparer le temps perdu. Il se sentait très heureux, sans avoir cependant aucun motif particulier de se réjouir, mais le contentement qu'il éprouvait se lisait sur son visage. De leur côté, Mesdames de Frézolles contemplaient curieusement ce spectacle que l'une avait oublié, que l'autre ne connaissait guère. Un être humain, dépourvu en apparence d'amertume et de soucis. Elle lui savait gré de laisser rayonner autour de lui son bonheur et sa gaieté jeune. Les cœurs qu'une longue souffrance a meurtris, sans les rétrécir, peuvent seuls comprendre l'héroïsme de ce sentiment presque contraire à la nature, car les malheureux se consolent plus volontiers par les larmes que par le sourire des autres. Toutefois, le remède n'agissait point également sur les deux femmes, et Bertrand, s'il eût fermé les yeux, ce qu'il n'avait garde de faire, se serait mépris sur leur âge et aurait confondu la vieille avec la jeune en les écoutant parler. D'ailleurs, la méprise, aujourd'hui, serait souvent répétée. Notre fin de siècle a bouleversé les générations. La grand-mère garde encore le bavardage léger. La fille raisonne. La petite, qui va sur ses 18 ans, tient boutique de pessimisme. On croirait entendre un piano dont les cordes graves sont à la droite du clavier. Gare aux fausses notes. Suzanne était trop juste pour ne pas trouver que ce marquis tombé des nues avait des façons distinguées. Un esprit sérieux sous sa gaieté et même du cœur, chose plus rare. Mais elle songeait, tout en retournant une rose dans ses doigts, car elle avait laissé de côté sa lingerie. À quoi bon cet églogue? Pour lui, c'est une distraction. Sans doute, il n'a rien à faire chez lui. Rien à faire. Une Américaine de 5 millions à épouser. Mais dans 8 jours, la maison des Brettes lui semblera ce qu'elle est en effet, un lieu fort triste. Il nous oubliera. Et qui aura gagné, ma chère maman? Un regret de plus et une solitude plus péniblement ressentie. Tout au contraire, Madame de Frézolles, rajeunie de 25 ans, tenait tête à Fonlus avec un entrain nouveau pour sa fille. Elle retrouvait 1000 souvenirs perdus, à la grande surprise de Suzanne, qui sentait plus de tristesse que de fierté en voyant dans quel milieu elle aurait dû vivre. Bertrand, vérification faite, était bien le fils du beau valseur d'autrefois, et rien qu'à l'entendre baisser involontairement la voix en parlant de sa mère, il était facile de voir que la despote n'avait fait que changer d'esclave. Lui, avec toutes sortes de précautions touchantes, revenait constamment à la pensée qui l'occupait. Depuis qu'il avait rencontré ces deux femmes, l'une si digne de respect, l'autre faite pour être aimée, dépourvues de tout bonheur l'une et l'autre, il ne songea plus qu'à mettre un peu de soleil dans leur vie. Déjà la mère, entraînée par une sympathie naturelle, en était aux premières confidences, malgré les regards de sa fille qui rougissait d'angoisse, car elle devinait la pitié dans le cœur de ce jeune homme que sa fortune lui rendait suspect. Elle ne se doutait pas que Bertrand n'était guère plus riche dans son château qu'on ne l'était dans la chaumière des Brettes, mais qu'il était à coup sûr plus pauvre de tendresse et d'intimité. La pendule sonna quelque chose qui aurait dû être 3 heures. Le jeune homme tressaillit, regarda sa montre et dit en se levant « J'oublie que le temps passe et que j'ai besoin d'être à la maison pour une affaire. Oserais-je, madame, revenir encore causer avec vous ?» La permission donnée, très cordialement, il s'enfuit comme un troupier en retard pour l'appel. Sur le chemin poudreux, l'on ne voyait plus trace du lion ni de Claudine, mais bientôt il les aperçut tous deux, sous un grand orme entouré d'une banquette de gazon desséché. La veuve du gendarme était assise, tenant toujours la bride du cheval, dont elle caressait les flancs et l'encolure avec sa branche de saule, en fredonnant à mi-voix un air que son défunt chantait jadis dans ses jours de gaieté. Le cheval, magnétisé, baissait la tête comme prêt à s'endormir. Et sur les bords d'une petite mare creusée par un précédent tenancier pour abreuver la vache aujourd'hui absente, deux canards sommeillaient tout à fait, la tête sous l'aile, faisant leur sieste, bien qu'ils ne fussent pas nés en Amérique. Le marquis, toujours fidèle aux usages de la politesse campagnarde, adressa la parole à Claudine tout en reprenant possession de sa monture. « J'espère, ma bonne femme, que toute votre basse-cour n'est pas là. »«
Le renard sait où elle reste, monsieur. Si jamais vous cherchez une maison pour vos vieux jours, vous ferez bien de ne pas choisir les brettes.
Je voudrais que ces satanés bois... »«
N'en dites pas de mal, » interrompit le jeune homme en riant. « Voici une pièce de 100 sous qui en vient. »
Claudine réfléchit une seconde.
« Ouais, je gage que vous êtes monsieur le marquis. »«
Vous avez gagné, » répondit Bertrand, déjà en selle.
« Ouvrez l'autre main, je paye la gageure. »
Il partit au galop, laissant derrière lui la servante radieuse, la mère satisfaite et la fille tout attristée, sans qu'elle pût dire pourquoi.